Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Curiosité. Nous sommes de retour après 2 jours d'absence sur les ondes. Je suis Emmanuelle, la stagiaire de Prune, et votre hôte pour ce soir. Il est 18h, c'est enfin le week-end, il fait beau, et nous célébrons ça avec des sujets concoctés par notre équipe de choc. Avant de commencer, je voudrais rendre un bref hommage à Arman Soldin, le journaliste mort en Ukraine mardi dernier. Son décès a fait la une ces derniers jours, et on en a déjà beaucoup parlé, mais sa disparition m'a touchée, et ce soir nous pensons à lui. Sans plus attendre, le programme de Curiosité ce soir. Nous commençons avec Loeva pour le Zoom Actu. Tu discuteras avec Amin Wagener. Et c'est l'auteur de Blablabla. En finir avec le bavardage climatique. Ensuite, Clémence reviendra sur un événement historique, le sac de Charles III entre tradition et modernité. On enchaînera sur un reportage que j'ai fait moi-même. J'ai été ce matin à la visite presse de la nouvelle exposition Expression décoloniale au Musée d'Histoire de Nantes. J'ai parlé à la commissaire, à l'artiste principale et à une jeune artiste à l'aube de sa carrière. On terminera avec la chronique littéraire d'Alexis. Et cette fois, Clémence fera gagner des cadeaux au milieu d'émission. Il est 18h04 sur Prune et je vous laisse avec Loeva et son invité.
Curiosité. Pensez le futur.
Bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Nous nous retrouvons à nouveau en direct sur Curiosité pour notre interview thématique du vendredi soir, Penser le futur, préparer l'avenir. Réchauffement, changement climatique, dérèglement climatique, urgence, catastrophe, aujourd'hui les mots ne manquent pas pour parler de la situation de la planète en termes de climat. Ces mots, similaires à première vue, diffèrent pourtant les uns des autres en ce qu'ils contiennent un sens et des messages différents. Comment faire alors la différence ? Comment s'y retrouver dans la multitude des mots existants aujourd'hui pour parler d'écologie ? Greenwashing, colibrisme, collapsologie, solastalgie, climato-scepticisme, éco-anxiété, j'en passe, et des meilleurs. Comment parvenir à comprendre les discours scientifiques, à décrypter le vrai du faux des discours politiques ? Pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons aujourd'hui en direct sur Prune pour un entretien téléphonique Albin Wagener. Bonsoir.
Bonsoir.
Albin Wagener, vous êtes socio-écolinguiste et vous avez publié en mars 2023 un ouvrage intitulé « Blablabla, en finir avec le bavardage climatique » aux éditions Le Robert et préfacé par Valérie Masson-Delmotte. Mais avant de plonger dans les pages du sujet, je voudrais vous demander dans un premier temps qu'est-ce que signifie être socio-écolinguiste ?
Alors en gros, socio-écolinguiste, donc c'est comme un linguiste qui s'intéresse donc au langage, aux façons de parler. Mais quand on est sociolinguiste, on s'intéresse en fait à la manière dont les imaginaires, les représentations sociales circulent à travers les discours. Et plus précisément, socio-écolinguiste, c'est dans le cadre en fait de l'environnement, de l'écologie, de la biodiversité, donc la manière dont on va parler en fait vont révéler des choses sur notre manière en fait tout simplement de penser, de vivre la nature, les autres animaux, l'environnement en général et le changement climatique en particulier par exemple.
Donc vous publiez votre livre dans un objectif d'en finir avec le bavardage climatique, c'est le titre, car nous serions pris actuellement dans un brouhaha du monde, de l'actualité, de nos conversations quotidiennes, sans qu'il y ait forcément quelque chose de clair qui en ressorte. En quoi exactement les mots, le langage, la linguistique détiennent une place importante dans les processus d'action ou d'inaction ?
En fait, agir, c'est bien, et avoir les bonnes façons d'agir, c'est mieux. Et le langage, alors on le sait depuis plus d'un siècle maintenant en linguistique, en fait, langage et pensée sont liés. C'est-à-dire la manière dont on va parler va en tout cas trahir ou révéler la manière dont on pense les choses. C'est justement l'utilisation de termes, par exemple, pour désigner des personnes de couleur. Des termes insultants disent des choses sur la façon dont on les imagine, dont on se les représente. C'est comme ça que le racisme fonctionne, c'est justement avec des mots péjoratifs. Donc le langage dit notre façon de penser. C'est pareil pour le changement climatique, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de parler par exemple de bouleversement climatique, de changement ou de réchauffement, ce sont des choix qui en disent long sur notre manière de penser les choses. Et justement, ça c'est pareil en sciences cognitives, on le sait maintenant, le langage nous, comment dire, va motiver nos actions. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre cerveau, la manière dont on pense avec les mots. Et donc en fait, en mettant les mots aux bons endroits, on va être plutôt enclin à agir ou à ne pas agir. Typiquement, par exemple, si on mange de la viande et qu'on veut devenir végétarien, le fait qu'on ait inventé un mot comme de la viande pour parler d'animaux morts, ça montre justement le fait qu'on a essayé de séparer l'animal du produit fini, du produit en fait carné qu'on va consommer, et pour essayer de mettre à distance l'animal et donc d'oublier le fait qu'il s'agit d'un être vivant qu'on va tuer, typiquement. Donc justement, les mots ont vraiment un poids, une influence très forte sur notre façon d'agir ou de ne pas agir face à des thématiques environnementales.
Et du coup, en termes de climat, j'ai cité plusieurs mots dans mon introduction. Si je comprends bien, il n'y a pas un seul mot à utiliser, il n'y a pas une seule vérité, c'est-à-dire entre réchauffement, changement, dérèglement, urgence, catastrophe, quel serait le plus juste à employer parce que la situation est la même, mais nos mots à nous changent. Est-ce qu'il y en a un qui serait plus juste qu'un autre à utiliser ou...
Ça, c'est toujours le truc qui est compliqué parce que, par exemple, notre monde est le même, donc il y a des centaines et des centaines de langues pour les écrire. Donc, il n'y a pas une vérité. En revanche, ce qui serait intéressant, ce serait effectivement de se mettre d'accord sur à la fois des termes qui nous engagent, mais aussi des récits derrière. Parce que le but de cet ouvrage, c'est aussi, au-delà du bavardage et des mots, de parler des récits. C'est-à-dire le fait qu'on a besoin d'être embarqué dans une histoire qui nous fait envie pour se mettre en action. Et la difficulté, enfin l'une des difficultés majeures face au changement climatique, c'est que l'histoire qu'on nous promet, le futur qu'on nous promet, est plutôt sombre et donc ne fait pas très envie. On a l'impression qu'on aura soit on aura de toute façon pas d'impact, ou soit on se dit vu que tout est foutu, autant essayer de s'adapter. Enfin, donc c'est évidemment compliqué. Alors il y a pas un seul mot. Puis effectivement dans le bouquin il y a plusieurs termes qui circulent parce que il y a plusieurs façons de regarder le changement climatique et avec derrière des idéologies, des récits concurrents. Quand on parle de technosolutionnisme, par exemple, ça veut dire que ce sont des gens qui vont penser que le changement climatique, il suffit en fait de le régler de manière technique et il n'y aura plus de problème. C'est-à-dire qu'on va simplement agir sur les conséquences du changement, mais jamais les causes. Donc jamais sur le système qui produit ce changement climatique-là. Et donc on a comme ça tout un ensemble de termes qui trahissent des récits et qui montrent que tant qu'on aura trop, justement, peut-être de termes pour parler de cette réalité-là, avec des idéologies, des politiques, vraiment des dessins différents, plus on aura des difficultés à s'unir pour répondre de manière coordonnée. Et c'est là un peu le défi, en fait.
Alors justement, vous parlez de récits, et en introduction de votre ouvrage, vous dites, je cite, « Si nous peinons à prendre les bonnes décisions, c'est parce que nous n'avons pas encore trouvé ou écrit de récits suffisamment fédérateurs pour nous emmener vers l'horizon des changements nécessaires. » Donc, à quoi ce récit fédérateur qui doit être capable de soulever les sociétés collectivement et impulser ensuite un mouvement suffisamment puissant pour nous faire changer de trajectoire, à quoi ce récit devrait ressembler, si on un portrait robot de ce récit fédérateur?
Si j'avais la réponse, ce serait... Je ne sais pas où je serais d'ailleurs. Ce serait génial. Mais je ne sais pas. Mais par contre, j'y travaille. Enfin, on est plusieurs à y travailler, évidemment. Mais en fait, je pense que l'une des clés, notamment, c'est de comprendre que l'un des enjeux du réchauffement climatique n'est pas un enjeu purement technique, mais un enjeu profondément culturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir faire face à l'urgence et en fait adopter des comportements qui vont limiter les dégâts, il va falloir changer de culture, donc de façon de vivre en réalité. Donc le problème, il est vraiment anthropologique. On parle beaucoup de transition écologique, mais en fait, derrière, on a besoin d'une transition culturelle. Ce que je dis, en fait, c'est que je pense qu'on est en fait... un peu comme des migrants, sauf qu'on ne change pas de terre. C'est-à-dire qu'en fait, on est chacun dans sa ville, dans son appartement, là. Et en fait, en réalité, tout le monde, tout autour de nous, est en train de changer et va nous forcer à nous adapter. Et donc, il va falloir qu'on change nos coutumes, nos façons de vivre, nos façons de nous habiller, nos façons de nous alimenter. Et donc, pour ça, on a besoin, effectivement, d'aller vers un récit qui mobilise et qui décrive vraiment cette transition-là culturelle et qui donne envie de s'y plonger, parce qu'en fait, en réalité, quand on n'a pas envie, c'est compliqué. Et donc, pour arriver à un récit fédérateur, je pense qu'il ne faut pas oublier la dimension du plaisir, notamment, parce que c'est souvent ce qui est reproché par leurs détracteurs au discours écologiste, c'est en gros, d'être sur de la restriction, de se priver, de s'enlever du plaisir, notamment dans l'assiette, par exemple, où on va dire, ben oui, mais du coup, si on mange que des légumes, il n'y a plus de plaisir, etc. Ce qui est évidemment faux, puisqu'on peut cuisiner, au contraire, inventer plein de recettes extrêmement savoureuses. Mais du coup, je pense que, pour l'instant, la dimension hédonique, comme on l'appelle, donc le plaisir, est souvent du côté des climato-sceptiques. Et précisément, ce qu'il faut, c'est renverser la balance par rapport à ça. C'est un des enjeux fondamentaux, parce que, évidemment, si on a, en fait, un horizon désirable qui fait plaisir pour justement bouger face au changement climatique, ce sera plus facile d'y aller. Et comme l'être humain est un émotionnel sensible et vraiment attaché à ses cinq sens, il faut, je pense, c'est une des pistes en tout cas fondamentales à mon avis pour motiver l'action.
Et on va s'arrêter là pour la première partie de cette interview. Donc restez en ligne avec nous, chères auditrices et auditeurs, pour la seconde partie. Juste après la pause musicale, on abordera la suite du sujet. On parlera plus en détail de l'ouvrage.
Maintenant, place à la musique Anybody de Bonaboy.
Charge my energy, I no get time for no enemy. Tori pe po le to mi. Nothing wey person ever see, I'm on nothing wey person ever see. Forget it, I say bashi. Money soon expected. Check out what body I jump in. I take out to the person. Check jelly, check. I'm in the answer, then yes sir. Then I'm in the answer, yes sir. Respect is reciprocal, even though we not know say I'm special. Anybody, when no one throws a G. Anybody, when no they got a body. I can't something, I can't something. Go back to fele, I can't something. You want your bed, you never walk. Should not because myself, I never talk. Look you, they laugh, you gone, pretty gone. I shall no say the tango come, mama, I no say the tango come. Money you no go fit the line, oh mama. Oh mama, life not on Python. Whether you like or not, go by ginger, me a best go pass. So yeah, kick me jack on go. Anybody, when no one does a G. I'm in the answer, then yes sir. Then I'm in the answer, yes sir. Respect is reciprocal, even though we not know say I'm special. Anybody, when no one does a G. Anybody, when no they got a body. Nah, I can't something, nah, I can't something. Go back to fele, fele.
C'était Anybody de Bonaboy. Maintenant, nous sommes de retour avec Loeva et son invité pour l'interview.
Curiosité. Pensez le futur.
Oui, de retour en direct sur Curiosité pour la seconde partie de l'interview, donc avec Albin Wagner, auteur du livre Blablabla, en finir avec le bavardage climatique, publié aux éditions Le Robert en mars 2023. Le titre de votre ouvrage est un clin d'œil évident à un discours de Greta Thunberg prononcé le 28 septembre 2021 lors d'un sommet des jeunes sur le changement climatique, où elle avait dénoncé le blablabla des élites dirigeantes. À ce sujet, quelle place y a-t-il pour les jeunes dans la construction de ce récit fédérateur ? Sont-ils plus au fait, selon vous, en décalage ou les mieux à même de construire ce récit ?
Moi, je dirais les mieux à même. Alors, c'est facile à dire, je ne suis pas jeune, donc. Mais je pense que c'est les mieux à même, tout simplement parce que c'est les premiers concernés. Et les premières concernées, à plus d'un titre, d'une. De deux, parce qu'on voit bien que ce qu'on a appelé à un moment donné les jeunesses climat, donc avec toutes les associations militantes qu'on a vues émerger ou réémerger ou se renouveler au moment de la loi climat, ont fait émerger des figures en fait jeunes justement et qui sont maintenant clairement à la pointe sur les questions de sensibilisation ou bien de lutte carrément évidemment par rapport au changement climatique, hein, à la fois dans les médias, je pense à Salomé Sacquet, Thomas Wagner, Paloma Moritz, à la fois du côté militant aussi, Alma Dufour qui est devenue députée, Mathilde Caillot, techno-activiste, qu'on a beaucoup vu danser pendant les manifs contre la réforme des retraites. Je pense que, en gros, on a quand même effectivement maintenant des figures qui sont plus que montantes, qui sont vraiment structurées et structurantes, installées par rapport au climat. Alors ça, c'est en France, mais évidemment, il y en a partout aussi à l'étranger, tout simplement parce que c'est pour ces générations-là que ça va être très concrètement problématique et complexe. Dans les années à venir. Et je pense que là-dessus, c'est très clair. Pour autant, je ne suis pas un partisan du clivage très facile générationnel parce que il y a chez les plus âgés aussi, y compris chez des boomers, des écologistes convaincus qui se battent depuis des dizaines d'années en fait pour que leurs idées adviennent. Donc ce n'est pas exclusivement un problème de génération. Mais clairement, oui, je pense qu'il y a, il faut de tout, il faut que tout le monde s'y mette. Mais je pense que la jeunesse actuelle, en tout cas engagée sur les questions climatiques, constitue un moteur rigoureusement incontournable et qui se retrouve vraiment au cœur de la machine sur ces questions-là. Ouais.
Il y a également les médias qui jouent un rôle crucial dans la prise de conscience de l'urgence climatique. Le GIEC l'a rappelé dans son 6e rapport paru en février 2022. Vous consacrez d'ailleurs un sous-chapitre de votre livre intitulé « Informer et sensibiliser à l'heure du hashtag Don't Look Up, le rôle des médias ». Et il est possible de constater que certains médias choisissent l'emploi de mots plus doux, entre guillemets, pour traiter des informations. Est-ce que cela se justifie selon vous ? On peut penser que c'est dans un but de préserver le public, mais dans ce cas-là, de quoi ? Ou faut-il plutôt parler franchement et ne pas avoir peur d'employer des termes plus graves ou du moins avec un sens beaucoup plus lourd ? Et je fais référence en cela à un journaliste de BFM TV durant l'été 2022, quand il y avait eu toutes les vagues de canicule, qui avait dit franco sur le plateau télé « La France va cramer ». Voilà, quel est votre...
Moi, je pense qu'il faut un linguiste pense qu'il faut nommer les choses de toute façon. Oui. Mais oui, bien sûr, je pense qu'on parle beaucoup depuis quelques temps d'un excès de radicalité. En réalité, je pense que l'excès, il est de l'autre côté. Il est dans le ramollissement, dans le fait d'arrondir beaucoup trop les angles. La réalité est effectivement extrêmement crue. Elle est même un peu effrayante quand on regarde vraiment le résultat des enquêtes scientifiques, en réalité, depuis des dizaines d'années. Mais en fait, c'est ça. On devrait s'inspirer justement de ça et le prendre vraiment de face pour agir, parce que ça ferait réagir précisément pour agir ensuite. Et effectivement, on a... Alors, c'est en train de changer, effectivement, de manière chez BFM. Ils ont aussi fait une très bonne émission animée par Bruce Toussaint, où ils imaginaient la France en 2050. C'était extrêmement intéressant. Après, il y a aussi des médias qui sont en train d'émerger, qui sont vraiment très pointus sur les questions environnementales, soit qui sont exclusivement consacrés, comme Reporter ouvert, soit qui ont un pan entier de leur rédaction consacré à ces questions, je pense à Blast. Donc on a effectivement ça. Maintenant, on voit que dans les médias plus mainstream ou dans la presse quotidienne régionale, on a encore tendance à parler de canicule, de fortes chaleurs, voire même parfois à expliquer qu'en fait, les fortes chaleurs sont une bonne chose pour le tourisme, pour les marchands de glace. Enfin, je veux dire, c'est vraiment se voiler la face. Et je pense que c'est même pas trop une question de pas de comment dire. Je pense que certains journalistes, leur but c'est même pas de préserver les gens, c'est que eux-mêmes pensent que c'est pas si grave que ça qu'on en fait trop. C'est-à-dire qu'il y a un manque de formation aussi Et d'ailleurs, il y a une charte, donc justement pour plus de climat dans les médias, qui a été signée et mise en œuvre. Je pense que c'est en train de changer fort heureusement de manière assez, assez intéressante dans le paysage audiovisuel français. Mais il y a encore du boulot et le problème, c'est que les gens s'informent aussi via les médias traditionnels ou la presse quotidienne régionale. Et si ces médias-là ne font pas l'effort d'être plus précis et plus francs sur les chiffres et sur ce qui se passe, plus ce sera compliqué de sensibiliser la population et de la pousser à agir. Donc là, les médias ont un rôle vraiment très important à jouer et donc sont en partie responsables de la prise de conscience dans le grand public.
Et on l'a dit en première partie, il y a un peu un brouhaha autour des questions climatiques, enfin, des discours qui divergent entre les politiques, tout ça. Comment savoir ce qui est juste, distinguer le vrai du faux? Est-ce que vous auriez des clés de lecture ou de compréhension à donner à nos auditrices et nos auditeurs? Peut-être aller voir justement ces médias spécialisés, je veux dire, sur les questions climatiques.
Oui, je pense que, en fait, très concrètement, je pense qu'il faut choisir ses sources d'information. Et effectivement, un média comme, typiquement, moi je pense que le média en ce moment qui est vraiment à la pointe sur ces sujets-là, qui le fait bien de manière pédagogique, didactique, parfois même un peu humoristique, c'est Vert, le média qui annonce la couleur, clairement. Il est accessible en ligne, il est facile à trouver. C'est un jeune média formé par des gens extrêmement compétents. Fondé par des gens très compétents. Donc je pense que c'est vraiment, pour moi, je donnerais tout de suite Vert. Ça c'est très très clair. Donc ça je pense que c'est vraiment important d'aller là. De toute façon, à chaque fois qu'on a une information qui tombe sur, quelle que soit l'information d'ailleurs, pas simplement sur le climat, mais sur tous les sujets, ce qu'il faut, c'est aller voir si elle est vérifiable. Ça c'est un réflexe de base. Alors on l'a pas toujours, ça demande du temps. Mais ce qu'il faut, c'est aller voir si l'information est vérifiable. Est-ce qu'on peut avoir accès aux études, aux enquêtes qui documentent l'information ou pas? Si ce n'est pas le cas, c'est une opinion. Une opinion, elle a le droit d'exister, mais une opinion n'est pas une information. Donc, c'est quand même deux choses très très différentes. Et par rapport au climat, on a beaucoup d'opinions, souvent informées par que dalle. C'est-à-dire des gens qui juste pensent que, alors qu'en fait, c'est basé sur rien, sur du vent. Et on a, hélas, peu d'informations qui remontent et qui sont vraiment traitées avec le sérieux qu'elles mériteraient. Donc, je pense que vraiment, vérifier l'information ou bien se consacrer à des médias qui le font et qui le font très sérieusement comme Vert. Donc c'est plutôt ce média que je recommanderais aux auditrices, aux auditeurs en tout cas.
Outre votre profession de socio-écolinguiste, vous êtes aussi à l'origine du média Malheurs Actuels qui cumule aujourd'hui 14 400 abonnés sur Instagram. Je voulais vous demander quelle place a l'humour lorsqu'on aborde les questions climatiques et écologiques. L'humour peut-il nous aider dans la compréhension et l'acceptation des enjeux?
Je pense que ça peut aider. En tout cas, c'était le pari, parce que quand on a fondé Malheurs Actuels, en fait, on était un petit noyau à le fonder. Moi, maintenant, j'ai de moins en moins de temps à y consacrer. Mais en tout cas, l'équipe fonctionne extrêmement bien. Il y a plein de choses qui sortent tous les jours. Le pari, c'était de se dire, moi, en tant que chercheur, je me disais, mais en fait, on a plein d'informations. Il y a des rapports du GIEC qui sortent tout le temps. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses, d'études qui sortent. Et ça change en rien. Et je me disais, toujours dans cette idée où il faut essayer de susciter des émotions positives, l'humour est un vecteur d'émotions positives, est un vecteur de convivialité. Donc pourquoi pas tenter cette carte-là qui n'avait jamais été tentée. Donc je me suis dit, Gorafi Vert, justement pour reprendre le média parodique, le Gorafi, qui est exclusivement consacré à l'écologie, ça pourrait être effectivement une piste. Et donc c'est ce qu'on a tenté de faire et commencé à faire avec une petite équipe, un petit noyau de 6-7 personnes. Et puis ça a pris de l'ampleur à notre grande surprise. Et on a même des gens qui nous ont écrit en nous expliquant que grâce à ce qu'on publiait, ils se marraient. Et en même temps, ça les encourageait à aller chercher des informations plus poussées. Et donc, ça les sensibilisait au final. Donc, je pense que l'humour est un des vecteurs. Enfin, quels que soient les sujets, il faut toujours plusieurs vecteurs. L'information n'est jamais le seul. Ça peut être l'art. Ça peut aussi être l'humour, du coup. Et je pense que là-dessus, effectivement, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et Malheurs Actuels, bien modestement, bien sûr, essaie d'apporter sa pierre à cet édifice-là. Mais je pense que pour l'instant, le pari est réussi, en tout cas.
Pour terminer cette interview, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je voulais avoir votre avis de socio-écolinguiste pour des propos, parce qu'on l'a vu durant toute l'interview, les mots ont leur importance, ont leur poids et reflètent nos pensées. Donc, je voulais avoir votre avis sur les propos, par exemple, qu'a pu avoir notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, quand il a qualifié récemment, par exemple, les militants écologiste de Sainte-Soline, d'éco-terroriste, ou toutes les positions qu'il y a pu y avoir sur... Alors, il y a eu les retraites, mais plus généralement sur le climat et l'écologie, la qualification de l'ultra-gauche, l'islamo-gauchisme, tous ces termes-là qu'il a employés. Selon vous, qu'est-ce que ça reflète, enfin, les conséquences de l'emploi de tels mots, et peut-être ce que ça reflète de le pouvoir en France aujourd'hui?
Ben, ça reflète déjà son positionnement idéologique et politique, donc très à droite, très dans une sphère conservatrice. Quand on choisit des mots, quand on est en position de pouvoir, on est en position de nommer les choses. Et quand on est en position de nommer les choses, on est en position d'influencer les représentations des gens, leurs imaginaires, leur façon de penser. Et donc, évidemment, c'est désastreux parce que, alors, ça ne veut pas dire que dès que Gérald Darmanin dit quelque chose, tout le monde pense comme lui et tout le monde se fait influencer.
Oui.
Mais ça met en place une petite musique négative et qui participe à construire, en fait, un récit, le récit du gouvernement, le récit officiel de l'État français sur l'écologie ou bien sur les militants qui sont en pointe sur les questions de diversité et de non-discrimination. Évidemment, mon avis, c'est que c'est de la manipulation pure et simple, qui vise non pas à regarder les faits, mais à désigner des adversaires politiques et à susciter de la haine contre ces adversaires politiques-là et à les désigner comme en fait responsables de situations très compliquées. Donc, c'est évidemment, de ce point de vue-là, plutôt négatif, et mon regard est négatif aussi sur ces choix lexicaux-là et sur la personne de Gérald Darmanin en particulier.
Donc, pour y faire face, de l'humour, le compte Instagram Malheurs Actuels et le journal Vert. C'est bien ça?
C'est ça, par exemple. Et puis, blablabla, peut-être.
Et blablabla, évidemment. Évidemment, blablabla. Ouais. En finir avec le bavardage climatique, je rappelle qu'il a été publié aux éditions Le Robert, donc en mars 2023. Eh bien, merci beaucoup, Albin Wagner. C'est la fin de cette interview.
Merci
beaucoup
à vous
d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Loeva, et merci beaucoup à Albin Wagner, l'invité du jour. Il est 18h29 sur Prune. Maintenant, place à la pause cadeau avec Clémence.
La pause cadeau.
Le printemps coréen et sa 10e édition de culture coréenne à Nantes est particulièrement riche en propositions musicales, expositions et rencontres. Pour l'occasion, il vous offre des places pour le spectacle de votre choix, donc n'hésitez pas à envoyer un message sur l'Insta de Prune pour remporter les places.
Pressure on me, got me wishing I was 6 feet deep in the yard. Somebody checking for me in the streets, whipping around California in the car, windows down, top down. I know you feel me now. I know you feel me now. I'll go faster. After our heart, our laughter, I
C'était Pressure Doyenson. Clémence, on te retrouve déjà, cette fois pour ta chronique qui porte sur le couronnement de Charles III.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Bonsoir chers auditeurs et auditrices. Pour nous Français qui ne résidons pas outre-Manche, le sacre royal des majestés le roi Charles III et de son épouse Camilla le 6 mai dernier ne représentait pas un événement à l'enjeu politique majeur, mais davantage un moment suspendu qui a contribué au rayonnement culturel de l'Empire britannique le temps d'un week-end de festivités. Charles III est le 40e monarque britannique à être couronné au sein de l'abbaye de Westminster, la messe étant célébrée par l'archevêque de Canterbury comme l'exige la tradition de l'Église anglicane. Protocole oblige, ses majestés ont mis tout leur soin à préserver les traditions historiques tout en y intégrant des éléments nouveaux qui sont le reflet de la modernité de notre époque. Ainsi, Charles III et son épouse alors roi et sacré symbolisent ensemble le renouveau de la couronne britannique et contribuent à son rayonnement international. Le trône du couronnement, objet hautement symbolique de la cérémonie, est celui du roi Édouard. Sous le siège est encastrée une pierre provenant de Scone, jadis résidence et lieu de couronnement des rois d'Écosse. De même, Sa Majesté a été sacrée avec la couronne de Saint-Édouard, une pièce maîtresse de la collection des joyaux de la couronne. Le sceptre royal est lui aussi d'origine. Il s'agit de celui porté par son grand-père, George VI, lors de son sacre le 22 mai 1937. Samedi dernier, Ses Majestés se sont déplacées dans le carrosse royal qui a été créé pour le jubilé de diamants de la reine Elisabeth II en 2012. Charles III réalise ici un hommage à sa défunte mère qu'il chérissait. Les tenues de cérémonie de la famille royale n'ont pas échappé non plus au clin d'œil de l'histoire en rendant hommage notamment aux membres défunts de la famille royale. Ainsi, l'épouse du prince William, Kate, a rendu un hommage discret à sa regrettée belle-mère, la princesse Diana, disparue en 1997, en portant ses boucles d'oreilles fétiches, faites de perles et de diamants. Ces boucles d'oreilles avaient été offertes à la princesse avant son mariage avec le prince Charles en 1981. Fait également surprenant, la tradition des princesses royales de porter le diadème princier a été rompue. En effet, Kate et sa fille Charlotte ont opté pour une coiffe fleurie, création originale imaginée par le chapelier Jess Collett et le créateur Alexander McQueen, en référence à l'amour du roi Charles III pour la nature, mais également en hommage aux coiffures portées par les demoiselles d'honneur de la défunte reine Elisabeth II lors de son mariage en juin 1953, de son couronnement pardon, en juin 1953. La robe de Kate, également une création exclusive Alexander McQueen, était un hommage aux nations de l'Empire britannique. En effet, cette robe en crêpe de soie ivoire était recouverte de broderies argentées aux motifs de roses, de chardons, de trèfles et de jonquilles, représentant les quatre nations du Royaume-Uni, alors unies plus que jamais en ce jour de couronnement. Le sacre du 6 mai 2023 restera gravé dans l'histoire, mais également dans la mémoire culturelle collective, grâce aux délicates attentions portées aux défunts membres de la famille royale. Il est également symbole du renouveau, qui résulte du parfait alliage entre le respect des traditions ancestrales et la modernité de notre époque.
Merci beaucoup Clémence pour cette chronique sur l'actualité. Maintenant, je vous laisse apprécier le reportage que j'ai fait aujourd'hui spécialement pour cette émission. Il annonce l'ouverture de l'exposition « Expression décoloniale » disponible dès demain au Musée d'Histoire de Nantes.
Curiosité reportage.
La troisième édition de l'exposition « Expression décoloniale » commence le samedi 13 mai au Musée d'Histoire de Nantes. Un musée abrité au sein du château des Lucs de Bretagne, au cœur d'une ville qui fut le plus grand port négrier de France. Cette exposition agit comme un miroir au parcours du musée consacré à l'esclavage. Des œuvres d'artistes afro-descendants contemporains ont été installées face aux objets d'époque afin de questionner sur notre histoire coloniale. Rencontre avec la commissaire de l'exposition Christelle Gualdé, avec l'artiste renommé Barthélémy Togo, et avec Monica Tollier, une artiste de 28 ans.
Le but de cette exposition, c'est de mettre en regard d'autres approches que les approches habituelles du musée, en faisant appel à des artistes contemporains et à des historiens contemporains qui sont issus du continent africain ou qui sont originaires du continent africain par leur ascendance, afin de mettre en place donc un dialogue entre leurs œuvres, leurs textes et les collections du parcours permanent. Je connais bien le musée, donc je vois bien les emplacements des objets, des œuvres, des thématiques et surtout ce que j'ai cherché dans les corpus des artistes qui ont eu la générosité de m'offrir cette possibilité, et en premier chef Barthélémy Togo, qui a eu la générosité de me donner une carte blanche. J'ai cherché dans leurs œuvres ce qui entrait en résonance avec les grandes thématiques aujourd'hui qui sont liées aux séquelles de l'histoire de l'esclavage, de la mémoire de l'esclavage. Et j'ai trouvé beaucoup de choses qui entraient en résonance avec ce passé.
Et comment vous êtes venue à choisir en premier lieu Barthélémy Togo, justement ?
Barthélémy Togo, c'est un immense artiste contemporain, un immense artiste africain. Et c'est un artiste extrêmement engagé, autour de valeurs qui sont aussi des valeurs importantes pour le Musée d'Histoire de Nantes. C'est un artiste dont le travail depuis toujours est aux côtés de ceux qui s'expriment mais ne sont pas forcément entendus. C'est quelqu'un dont le travail parle de discrimination, de hiérarchisation, d'inégalité des chances, de racisme. Et toutes ces thématiques, évidemment, elles sont importantes pour le Musée d'Histoire de Nantes. Donc c'était presque naturel d'aller vers lui et de le solliciter pour cette édition.
Vu les propos que mon travail dégage, c'est la directrice qui est venue, Christelle, qui est venue vers moi. Et je lui ai donné la carte blanche de choisir les œuvres qui vont dans son musée. Son côté de spécialiste et de commissaire d'exposition et de muséologue, elle l'a mis en marche, quoi.
Le but était de faire dialoguer vos œuvres avec celles du musée ?
Voilà, puisqu'elle connaît bien les collections du musée et qu'elle devait découvrir l'éventail de mes productions et tout ce que mes productions abordent. Elle devait les disposer pour dialoguer ensemble.
Qu'est-ce que vous avez retiré de ce dialogue ?
J'ai découvert une autre dimension de ce que j'avais pensé dans mon atelier, juste en étant choqué des actions de la police américaine et que je voulais redonner une vie, rendre hommage aux gens qui étaient de couleur noire et qui étaient assassinés par la police. Christelle Gualdier trouve d'où vient ce comportement de l'esclavage et de la considération qui a été faite aux Noirs. Et elle le met bien en rapport dans son musée.
Plusieurs autres artistes vous accompagnent aujourd'hui. Pourquoi les avoir invités ?
Parce que je pensais que quand je suis venu visiter le musée, c'était tellement lourd le sujet de l'esclavage. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'associe avec des artistes de la diaspora qui travaillent sur ce thème. Jean-François Bouclé travaille depuis plus de 20 ans sur ce thème. Et Rosanna a fait une prestation magnifique à la Biennale de Venise. Et je me suis renseigné au commissaire d'exposition sud-américain, le Colombien José Roca, qui m'a parlé de Rosanna. Et donc je me suis mis en contact avec elle pour lui demander de participer. Et elle a accepté le projet parce que je n'avais pas envie de porter cette exposition tout seul, d'associer des confrères qui travaillent déjà dans ce thème, sur ce thème.
Ils ont apporté un vrai enrichissement ?
Très riche, parce que quand Moreira de Mozambique vient et découvre mon installation et joue tout autour, c'est comme s'il avait participé à la création de cette œuvre. Et ce n'est qu'une situation sublime de voir comment aussi les artistes ont réagi devant ces situations nouvelles.
Parmi les 5 artistes invités par Barthélémy Togo, il y a Monica Tolié. C'est une jeune artiste de la République démocratique du Congo. Son œuvre est exposée dans une salle à côté de celle du Martiniquais Jean-François Boutelet. Ce sont 2 peintures sur lesquelles on voit une femme enceinte sans tête et en train de danser. Elle est nue et des petits serpents s'étendent derrière elle. Monica Tolié nous parle de sa création et de l'opportunité qu'elle a eue de collaborer avec des artistes connus mondialement.
C'est toujours très important, déjà très au début de sa carrière, de pouvoir faire face aux artistes qui ont parcouru un très long chemin sur ces métiers qui nous aident, qui nous semblent très vastes et très larges, voire même dire qu'un métier dont on finit même pas à découvrir de choses. Parce que creuser, c'est tout le jour, c'est tout le temps qu'on apprend. Donc du coup, déjà au départ, comme ça, moi, ça m'encourage, ça me fait énormément du bien et du coup, j'apprends de beaucoup de choses. Voilà.
Et comment, justement, vous êtes arrivée à être exposée là et rencontrer Barthélémy ?
Barthélémy, c'est un artiste que je suivais depuis très longtemps, bien avant le début de ma carrière. Et c'est un artiste qui m'inspirait beaucoup. Alors du coup, de temps en temps, je voulais être en contact avec lui. Mais bon, lorsque je voyais ses publications, cela m'est poussé à les travailler pour ne pas venir lui présenter un travail pas bien cuit ou pas bien prêt. Et lorsque je m'étais sentie au niveau que j'étais capable de lui proposer quelque chose de suffisante. C'est comme ça que j'avais essayé par les réseaux venir vers lui. D'abord en lui présentant mon travail. Cette fois-là, il m'avait contacté de pouvoir, si possible, d'accepter venir participer dans ses projets parce qu'il y avait le trait avec les sujets de l'expression décoloniale.
Vous pouvez parler un peu de l'œuvre que vous avez exposée ici ?
Oui, mon œuvre ici parle de beaucoup de choses à la fois. Parce qu'après, en étant ici, j'ai découvert encore une autre façon à laquelle moi je ne voyais pas sur cette œuvre. Mais au départ, lorsque je l'ai conçue, j'avais fait juste un constat où, après plusieurs réflexions, après plusieurs questionnements à l'égard de moi-même, je n'avais pas de réponse. Je me disais, depuis toujours, l'être humain a été lui-même été détruit par l'homme. Alors du coup, j'ai voulu représenter cela à travers une femme à laquelle j'ai... Une femme qui porte en elle une vie, une grossesse, c'est-à-dire une femme qui porte en elle un avenir, mais tout en ignorant que cet enfant qu'elle porte en elle peut être peut-être un élément dangereux ou pas dans la vie. Alors cette façon des manques de tête sur la femme enceinte, c'est juste une façon de dire l'inconscience, pas l'inconscience parce que là c'est trop un peu forte, une façon de dire... l'ignorance de cette femme qui protège pendant longtemps un enfant, mais elle ne sait peut-être pas que cet enfant pourrait contourner ou se détourner contre elle. Voilà un peu dans la généralité ce qu'il voulait dire, mais l'important c'est pas d'abord insister sur ce point de vue où l'homme peut être dévastateur ou pas, mais l'important c'est de pouvoir et rappeler aux gens de commencer d'abord à travailler sur leur pensée. Parce que c'est dans la pensée qu'on arrive à agir, c'est dans la pensée qu'on arrive à faire des choses. Lorsqu'on pense mal, on agit mal. Mais lorsqu'on pense bien, on agit bien à l'égard de nous-mêmes et à l'égard de l'autre aussi. Dans la généralité, moi je travaille beaucoup plus sur le système déplorable dans la société. J'y touche le point des enfants exploité, j'y touche le point de femme discriminée par rapport à ce qui a été dans le passé, mais qui aujourd'hui, depuis un moment, c'est devenu un sujet auquel les gens parlent partout, mais après, ces sujets doivent, jusque-là, n'a pas encore atteint l'objectif. Du coup, je parle de femmes souvent à l'intention de pouvoir éveiller leur conscience, à savoir se mettre à leur place, à savoir reconnaître ce qui leur revient de droit et à savoir s'y connaître pour d'eux-mêmes, s'y créer une place importante dans la société. Mais le plus important, c'est de parler du présent, de l'actualité. Donc, c'est-à-dire, je pourrais m'inspirer de ce qui sera. Comprenez ? De ce qui sera dans l'actualité. Parce qu'après, on peut avoir des idées, mais quand il y a quelque chose qui arrive dans le monde, du coup, au lieu de rester par ces projets ancrés, mieux vaut parler de ce qui est dans l'actualité, parce que ce qui est vécu, ce qui est réel.
Est-ce que vous pouviez, pour donner envie aux auditeurs, décrire ou expliquer un moment du parcours qui vous tient à cœur ?
Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de moments, en fait, ce qui peut faire venir cette fois-ci les visiteurs, c'est la certitude de rencontrer des émotions. Quand on va dans un musée, on rencontre des œuvres, on rencontre des objets, on rencontre des documents, tout ça est très compliqué. Avec le fait de mettre de l'art contemporain dans des salles où on présente des objets anciens, et que ça résonne, ce que l'on vit à ce moment-là, c'est une expérience de visite inédite. On vit une émotion, on est saisi. Alors ça peut être saisi par l'horreur, saisi par la tristesse, saisi par la beauté, saisi par la confrontation inattendue. En fait, c'est une proposition, expression décoloniale. Et le but, c'est vraiment de sortir de ce qui est établi, ce qui est attendu d'une visite dans un musée. On va apprendre, c'est vrai, durant cette visite, on va comprendre, du moins je l'espère, mais on va aussi sortir de ses certitudes, on va aussi sortir des sentiers communs et se trouver un petit peu décalé et se trouver à se poser des questions qu'on ne s'est peut-être pas forcément déjà posées ou à mieux comprendre ce qu'on vit aujourd'hui. Donc je pense que c'est vraiment... L'idée, c'est de se laisser aller à l'émotion, ce qu'on ne fait pas forcément dans un musée. On ne s'autorise pas forcément à avoir le droit à une émotion réelle, assez frontale avec des sujets importants. Voilà ce qui, à mon avis, est déterminant dans la manifestation expression décoloniale.
La musique vient du jazzman Morera Tshangusa, présent aux côtés de Barthélémy Togo et de Monica Toye. L'exposition Expression décoloniale se tiendra du 13 mai au 12 novembre 2023 au Musée d'Histoire de Nantes.
Maintenant, place à une petite pause musicale. Écoutons Warrior de Salt.
Gangsta, warrior, rasta, godson, god, they dance to the old drum. Two steps in the jungle, can't stop. We have to move, blaze, bat, don't beat. Them a fear, God to win him. That's phenomenal.
That's phenomenal.
Yeah. Warrior, funk, oibo. That's just how it is. Ratings, every street we go. Member, we up in up. Vex, what, with, ooh. When it pass, pass, true, encore.
Warrior.
The blessings in the songs where we are.
Warrior.
I will say. He rasta no tear down. Warrior.
We were born to break the rules.
Gangsta warrior.
Break down the walls. Blessed love. We were born to break the rules.
Gangsta warrior.
Very close, knee, gus, in a the road. Ethiopians, shampoos, dread, fresher than a shampoo, you know?
So we move, when we lift it up, we go up, so.
Can't go down, instantly we there, number one, we go. Ooh, baby, we are.
Warrior, you know, this a top thing.
King Kong, we no live in England.
King Kong, no for them a fling stone beam. Jumps, that just if a beat jump. Rum, no we never drink rum. Spanish town, boy, global. Touch abroad like we dance, how we are. We on the run. Coulda never stay still, we have to run. Highly, God we never run from. He my godfather, my godson. Tell the systems, when we done. Them a go cry for the Lord and the Jesus.
Gotta pay.
Vous venez d'écouter Warrior de Salt. Maintenant, place à Alexis pour sa chronique littérature.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Et oui, un grand plaisir de revenir donc pour cette chronique littéraire dans l'émission Curiosité sur la Radio Prune, une chronique que j'essaye de faire de manière hebdomadaire, mais des fois c'est un petit peu compliqué avec l'actualité, avec le travail. Mais je suis ravi de parler d'un livre qui vient de sortir, qui est sorti il y a seulement quelques mois, enfin en début d'année, sorti aux éditions La Talente, qui sont donc, je vous le rappelle, des éditions nantaises, et qui ont également, et je vous le rappelle, leur propre librairie qui est juste à côté de la place Royale. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Ils vendent bien sûr les livres qu'ils éditent, mais également plein d'autres livres spécialisés dans la science-fiction, puisque c'est leur spécialité pour La Talente. J'avais déjà parlé, je crois, l'année dernière ou il y a un an et demi, d'un livre qui s'appelait Un psaume pour les recyclés sauvages, un livre court hein, qui fait 130 pages à peu près, et qui était en fait le premier d'une série annoncée, dont on ne sait pas combien il va y avoir d'épisodes pour le moment, qui est la série Histoire de moines et de robots. Ce premier livre parlait précisément de ça, c'est-à-dire d'un moine qui rencontrait un robot. Dans un monde futuriste assez idéal, ou idéalisé peut-être, je ne sais pas, où il y a eu un cataclysme, ou plutôt un cataclysme tel qu'on le connaît dans les livres post-apocalyptiques, n'a finalement pas eu lieu. Il a finalement été empêché très peu de temps avant, et donc l'humanité a réfléchi à ses erreurs, en gros, et a décidé de partir dans une autre voie. Et c'est là où il y a cette espèce d'utopie qui est créée, une utopie très écologiste, ouverte, qui n'est pas spécifiquement genré aussi non plus. Le personnage principal, on ne sait pas précisément quel est le genre, parce que c'est la volonté du personnage. Il n'y a pas eu de rencontre avec les robots qui avaient été inventés par les humains pendant des siècles. En fait, les robots, les humains leur ont proposé de devenir des citoyens à part entière, ce à quoi les robots ont répondu non merci, on préfère s'en aller et vous laisser tranquille. Donc ils sont partis, ils ont une espèce de zone complètement pour eux, et ce qui fait qu'il y a eu zéro contact pendant des siècles entre les humains et les robots. Et donc, ce premier roman, Un psaume pour les recyclés sauvages, écrit par Becky Chambers, je ne l'ai pas encore annoncé, le nom de l'autrice, racontait justement la première rencontre entre un humain et un robot. C'est Dex, le moine, et Onfal, le robot de 2 mètres, qui est sympa et qui pose la question à tout le monde, qu'est-ce que veulent les humains ? On retrouve ces deux personnages dans ce deuxième volet qui s'appelle Une prière pour les cimes timides. Donc là encore un super titre, il faut le retenir, mais une fois qu'on l'a retenu, on le retient. Une prière pour les cimes timides, toujours bien sûr de Becky Chambers, après que le premier roman a reçu quand même le prix Hugo du meilleur roman court en 2022. On continue donc la balade un petit peu, picaresque, un peu à la Sancho Panza et Don Quichotte, qui se balade, il rencontre des gens, il leur arrive des aventures, c'est très court également, 120 pages uniquement, et ça continue ce dialogue entre ces deux personnages qui avance petit à petit. Et puis c'est un dialogue philosophique qui rappelle donc Don Quichotte, mais aussi pourquoi pas Jacques le Fataliste, Jacques et son maître. Un discours au long cours entre un personnage qui se cherche, donc le jeune moine, et le robot qui lui cherche des réponses et arrête pas d'en poser à tout le monde, et qui est super sympa jusqu'à devenir un peu énervant pour l'autre personnage. Et c'est vraiment très chouette, très joli, très facile à lire, très agréablement écrit. Et puis c'est aussi un exemple d'un courant de science-fiction qui existe seulement depuis finalement quelques années, qui est un courant assez optimiste sur le futur, pourquoi pas, que ce soit techniquement mais aussi socialement. Une prière pour les cimes timides, c'est également donc édité par La Talente, c'est également écrit par Becky Chambers, c'est disponible déjà et je vous le conseille.
Merci beaucoup Alexis pour sa chronique littérature. Voilà, donc vous, c'est Curiosité, c'est terminé pour ce soir. Merci à l'équipe, merci à Loeva, Clémence, Alexis et Julia à la technique. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune, prune.net. Restez à l'écoute pour le Planétarium Club, le voyage dans la galaxie musicale. Nous vous souhaitons un beau week-end. Vous retrouverez la Curiosité la semaine prochaine. Mais en attendant, restez à l'écoute sur Prune.
Curiosité.
du lundi au vendredi de 18h à 19h et en podcast sur prune.net.